j'ai entendu parler d'un galion qui a coulé au large de la Jamaïque. Ses cales sont remplies d'or, de pierres précieuses et de luxueuses étoffes. Un vieux parchemin trouvé au fond d'un grenier poussiéreux nous conduira jusqu'à lui. Si vous n'avez pas le mal de mer, suivez-moi. Si vous avez le mal de mer, suivez-moi quand même. Nous voguerons sur les flots, du lagon de Maracaibo au rivage de Zanzibar, de l'île d'Hispaniola au dock de Liverpool, de Valparaiso au détroit de Malacca. Mascaré, votre nouveau magazine consacré à la culture maritime, aux boucaniers et aux terrae incognitae. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mascaré. On a coutume de dire que l'on n'a pas d'amis dans le monde des affaires et que tous les coups bas sont permis pour décrocher de nouveaux contrats. Les diplomates et les représentants de l'industrie navale française en ont fait récemment l'amère expérience avec la question du contrat des sous-marins en Australie. Les secteurs de la défense, de l'énergie, essentiellement les énergies fossiles et nucléaires, ainsi que l'aéronautique, sont des secteurs particulièrement sensibles où les contrats commerciaux se négocient d'État à État. Pour ces contrats, les négociations ne sont pas uniquement commerciales, mais ont pour toile de fond le contexte géopolitique du moment ou d'une zone géographique donnée. Je vais vous parler aujourd'hui du contrat liant la France à l'Australie pour la vente de 12 sous-marins, contrat pesant près de 90 milliards d'euros et qui a été annulé au mois de septembre dernier. Les autorités françaises se sont dites abasourdies par cette décision lourde de conséquences aussi bien sur le plan économique que diplomatique, et nous allons voir ensemble les coulisses de cette rocambolesque affaire. Micmac à Canberra, c'est tout de suite dans Mascaré. Au mois de juin 2016, le président François Hollande était ravi d'annoncer les fiançailles franco-australiennes dans le domaine de la coopération navale pour la vente de 12 sous-marins de type Barracuda. La France, par le biais de Naval Group, était donc censée livrer ses différents bâtiments à une échelle de temps assez lointaine, puisque la coopération franco-australienne devait porter sur une cinquantaine d'années. Dans le courant de l'année 2021, même si le sujet de ce contrat de vente de sous-marins ne faisait pas la une de l'actualité, et je ne vous rappellerai pas pourquoi ce sujet n'était pas prioritaire cette année, néanmoins, tout semblait avancer correctement. En tout cas, quand je dis correctement, comme cela peut avancer dans ce type de dossier où il y a de nombreuses négociations, où les préparations de contrats sont très longues, et où, d'une certaine manière, il faut aussi mettre en place toute une chaîne de production, des certifications, la formation des équipages. Enfin, c'est un dossier qui est particulièrement complexe. Ce n'est pas aussi simple que d'aller acheter un paquet de café à l'épicerie du coin. Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2021, un coup de théâtre se produit, puisque l'Australie annonce la résiliation unilatérale de ce contrat, et dans la foulée, l'Australie annonce un accord avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour la construction de sous-marins nucléaires. La stupéfaction est totale au sommet de l'État français, et si les murs de l'Élysée pouvaient parler, ils témoigneraient certainement du chapelet d'injures prononcé cette nuit-là. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, va même jusqu'à qualifier cette action de l'Australie de mensonge et de duperie. En termes diplomatiques, vous voyez là qu'on commence quand même à atteindre un certain degré de colère et les prémices d'une fâcherie durable entre deux pays. Signe de la colère présidentielle, les ambassadeurs de France en Australie et aux États-Unis ont été rappelés pour consultation. Quand on parle de consultation et qu'on rappelle des ambassadeurs en matière de diplomatie, c'est une action très forte, symbolique en tout cas. Dans les faits, l'impact de ce type d'action est quand même très limité. Pour vous donner quelques clés de lecture supplémentaires, cette affaire de la vente de sous-marins à l'Australie, elle se dessine sur la toile de fond de la zone Asie-Pacifique ou de la zone Indo-Pacifique. Alors c'est vrai que la zone Indo-Pacifique, elle est quand même particulièrement large, puisqu'elle comprend à la fois l'océan Indien depuis les côtes africaines, vraiment jusqu'à l'Océanie. Et c'est un vaste ensemble, particulièrement stratégique, étant donné qu'il y a de nombreuses routes maritimes commerciale, avec notamment le détroit de Malacca. Et c'est ce qui explique que c'est une zone qui est particulièrement militarisée et qui fait l'objet de toutes les attentions stratégiques en ce moment. Pour vous donner un exemple, en septembre 2021, donc à peu près au même moment, la Commission européenne a présenté sa stratégie en matière de coopération dans la zone Indo-Pacifique. Et pourquoi l'espace Indo-Pacifique il est aussi important aujourd'hui? C'est que c'est un espace qui sépare, mais qui relie en même temps, les deux puissances stratégiques que sont la Chine et les États-Unis. Et vous l'aurez vite compris, la Chine et les États-Unis se disputent âprement cet espace pour pousser leur pion. Du côté chinois, ce qui est énormément observé, ce sont les revendications de la Chine en mer de Chine méridionale et entre les différents pays riverains. C'est une zone de tension dont on parle assez peu souvent dans les médias, mais qui est aujourd'hui quand même à observer parce que ça peut être un point de déstabilisation dans la zone Indo-Pacifique. Et simplement pour vous montrer à quel point cette zone est observée, notamment du point de vue des États-Unis, je vais vous citer un extrait d'un document qui provient du ministère de la Défense des États-Unis. La République populaire de Chine, sous la direction du Parti communiste, cherche à réorganiser la région à son avantage en tirant parti de la modernisation militaire, des opérations d'influence et de l'économie prédatrice pour contraindre d'autres nations. En revanche, le ministère de la Défense soutient des choix qui favorisent la paix et la prospérité à long terme pour tout l'Indo-Pacifique. Après vous avoir présenté les grandes lignes de cette affaire et la toile de fond géopolitique qui va avec, je vais maintenant vous parler des coulisses de cette affaire et d'une question qui en tout cas m'est venue à l'esprit en préparant cette chronique, c'est y avait-il des signes avant-coureurs et que s'est-il réellement passé? Je vous le disais, les autorités françaises ont prétendu n'être au courant de rien. C'est pour cela que l'idée d'un coup de poignard a été évoquée, d'une trahison entre alliés, cette idée a été avancée. Bon, la réalité, la situation semble être quand même un petit peu plus complexe. Quelques signaux auraient pu apparaître comme des alertes auprès des autorités françaises depuis le début de l'année 2021. Je vous remets quelques chiffres en tête au niveau des enjeux. Donc il y avait 12 sous-marins qui devaient être commandés, avec à la clé la création de près de 1800 emplois, dont une grande partie devait se trouver en tout cas à Adélaïde en Australie. Alors depuis la signature du contrat en 2016, le coût du projet avait quasiment doublé. Et cet élément commençait sérieusement à irriter les autorités australiennes. Le projet industriel a pris du retard au fil des années, en tout cas depuis 2016, et l'Australie a fini par exprimer son mécontentement de manière officielle par le biais de Scott Morrison, son premier ministre. À la mi-juin 2021, Scott Morrison, donc le premier ministre australien, est en visite officielle en France. Au cours d'un dîner à l'Elysée, il fait part à Emmanuel Macron de son agacement face à l'enlisement de cette situation et à l'envolée du coût du projet. À ce moment-là, Morrison pose un ultimatum à Naval Group, qui est donc en charge de la construction des sous-marins, mais cet ultimatum posé à Naval Group, c'est clairement un ultimatum posé à l'État français. Naval Group a 2 mois pour trouver une solution et faire repartir ce projet. A priori, à ce moment-là, la résiliation du contrat n'est pas envisagée. Néanmoins, c'est ce que l'on appelle un avertissement sans frais. Les autorités françaises n'ont peut-être pas pris la pleine et entière mesure de la menace australienne qui, visiblement, depuis quelques mois, préparait un plan de secours en ayant mandaté un cabinet de conseil pour dessiner de nouvelles perspectives et une nouvelle collaboration avec d'autres États pour la construction de ces sous-marins. C'est en février 2021 que le quotidien économique The Financial Review fait état d'une étude commandée par le Premier ministre concernant une éventuelle rupture du contrat avec la France. Donc vous voyez, dès février, l'idée était envisagée dans l'esprit australien. Un peu plus tôt, je vous disais que la résiliation n'était pas envisagée au mois de juin. En tout cas, Scott Morrison n'a pas clairement dit au président de la République que l'Australie pourrait envisager de résilier le contrat. C'était, on va dire, un projet, c'était un travail qui était mené côté australien. Et cet article donc, du Financial Review fait état du fait que cette décision pourrait être prise, donc à partir de février, malgré les conséquences diplomatiques d'une telle décision. Il y a eu donc différentes alertes médiatiques qui ne semblent pas avoir alarmé les cadres de Naval Group, ni même le ministère des Affaires étrangères, qui, même si ça ne fait pas partie de son périmètre régalien, hein, le business, les affaires étrangères dans ce type de contrat sont toujours plus ou moins liées, ou en tout cas informées, ou à minima devraient assurer un minimum de veille sur ce sujet. En juin 2021, peu après l'échange entre Scott Morrison et Emmanuel Macron, des échanges bilatéraux ont lieu entre les deux ministres de la Défense et le ministre australien de la Défense fait part de ses inquiétudes quant à la montée en puissance des tensions avec la Chine dans la zone Indo-Pacifique. Alors cette information elle peut paraître anodine, puisque qui s'intéresse à la géopolitique de la zone Indo-Pacifique sait pertinemment que le risque est la montée en puissance de la Chine. Néanmoins, je vous ai dit précédemment que la Chine était en tension avec les États-Unis dans cette région. Et de manière indirecte, de la part du ministre de la Défense de l'Australie, c'était peut-être aussi une façon de dire « Attention, si votre projet ne nous convient pas, nous pourrions très bien nous tourner vers les États-Unis. » Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, que peut-il bien se passer ? Alors l'alliance de l'Australie avec les États-Unis et le Royaume-Uni montre bien tout l'intérêt que l'Australie a à se placer sous le parapluie militaire américain face à la menace chinoise en mer de Chine et dans la zone Indo-Pacifique. Le 21 septembre 2021, Joe Biden a quelque peu retourné le couteau dans la plaie au sujet de ce contrat en déclarant que les États-Unis n'ont pas d'alliés plus proches ou plus fiables que l'Australie. Le message envers la France était quand même particulièrement clair. Même si Joe Biden et Emmanuel Macron, quelques jours après, se sont serré la main, se sont mis une tape dans le dos, vous voyez bien quand même qu'il y a une tension qui ne redescendra pas de sitôt. Cette affaire franco-australienne, elle souligne aussi les faiblesses d'un projet dont on parle depuis longtemps, mais qui peine à voir le jour, c'est l'Europe de la Défense. Alors l'Europe de la Défense, d'une certaine façon, c'est simplement se dire que l'ensemble des pays de l'Union Européenne vont mutualiser leurs forces de défense pour devenir une puissance à part entière. Et dans le cadre des grands contrats, notamment dans le domaine militaire, une Europe de la Défense pourrait permettre de mutualiser les moyens entre les différents pays de l'UE et de mettre en avant aussi tout le savoir-faire d'entreprises venant de différents pays européens. Dans le domaine de l'export, c'est ce que l'on appelle la chasse en meute, en fait, où on réunit l'ensemble des forces vives pour aller conquérir de nouveaux marchés. Et dans le domaine de l'armement, ou en tout cas de la défense de manière plus générale, notamment lorsqu'il y a une concurrence anglo-saxonne affirmée, il serait peut-être bon, effectivement, que l'Europe de la défense se mette en place pour avoir plus d'arguments pour gagner des marchés. Ainsi s'achève cette chronique dédiée à l'affaire des sous-marins entre la France et l'Australie et la rupture unilatérale de ce contrat gigantesque. Cette affaire, elle est l'illustration des coulisses des négociations pour les grands contrats qui vont se négocier d'État à État. Je ne vous en ai pas parlé, mais la France a connu d'autres revers dans ce domaine, notamment dans le secteur nucléaire, lorsqu'en 2009, la France était persuadée qu'elle remporterait le contrat de vente de 4 réacteurs nucléaires à Abu Dhabi, et au final, c'est la Corée du Sud qui a remporté le marché. Pour des motifs différents, mais en tout cas, la France avait peut-être manqué un peu de vigilance à cette époque sur la manière de conclure et de mener à bien ce projet de contrat. Vous savez certainement qu'on parle souvent d'une forme d'arrogance à la française, et dans le cadre des affaires, c'est peut-être aussi ce qui a pu se produire. Puisque lorsqu'il y a des grands contrats qui sont en négociation comme cela, l'idée ce n'est pas simplement d'envoyer des commerciaux, des représentants d'industrie ou du gouvernement français tous les 4 matins pour discuter. Il est important d'avoir des équipes sur place qui font un lobbying permanent pour la défense des intérêts de ce contrat. Et peut-être que dans ce cas, il y a eu un manque de présence sur le terrain ou un manque de collecte d'informations pour notamment repérer les signaux d'alarme qui venaient du gouvernement australien. La prochaine fois que la France et l'Australie régleront leurs comptes sur un terrain, ça sera très certainement au rugby et pas dans le domaine des affaires. Et En attendant le prochain choc entre le 15 de France et les Wallabies, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Mascarade.